Il est au cœur d'une des paroisses les plus dynamiques du diocèse de Viviers, le diocèse de l'Ardèche. À 14 ans, il a dit « Je serai prêtre ou prof d'histoire géo. J'irai à la Coupe du Monde ou je rentrerai à l'abbaye de Champagne. » Eh bien, Ludovic Basset-Charcot, vous avez choisi d'être prêtre. Vous êtes chanoine régulier de Saint-Victor de l'abbaye de Champagne en Ardèche. Et puis, vous êtes notre invité sur RCF. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci, c'est un grand plaisir. On va prendre l'histoire de Ludovic Basset-Charcot à la page 1.
Oui.
Elle commence le 26 février 1974 et j'ajoute que c'est une très bonne année. Il y a des gens très bien qui sont nés cette année-là.
D'accord. Alors je nais à Paris parce que mes parents sont parisiens tous les deux. Je suis le premier d'une famille qui sera nombreuse puisque nous sommes 6 frères et sœurs. Assez vite, j'en ai pas le souvenir, mais nous quittons la région parisienne pour nous installer du côté d'Orléans, dans un petit village qui s'appelle Olivet, où j'ai la joie du coup d'habiter dans une grande maison avec un grand jardin, avec des grands espaces, avec un sous-bois, avec un bras du Loiret qui arrive au fond. Et ça a été toute mon enfance a été baignée par cette atmosphère assez assez exceptionnelle de la vie à la campagne, dont je garde un très bon souvenir. Entouré de mes parents, j'ai vu naître mes frères et sœurs, entouré aussi de pas mal d'amis, de pas mal de familles, où chaque dimanche on déjeunait chez les uns et chez les autres un peu à la bonne franquette. Papa mettait les chipots dans le coffre de la voiture sans savoir où est-ce qu'on allait déjeuner, et puis on se retrouvait chez les uns chez les autres au dernier moment. Et c'est des souvenirs tout à fait exceptionnels et merveilleux. On allait prendre le dessert en montant dans les cerisiers, et oui, je garde sans doute de cette époque-là cette capacité d'accueil, d'adaptabilité et ce désir de mettre en lien les personnes et les familles.
Juste avant que vous ne repartiez sur Paris, si je comprends bien, vous perdez un de vos frères.
Oui, j'ai 6 ans. À l'époque, je suis l'aîné d'une famille de 4. Le dernier, Alban, vient de naître. Quelques semaines après sa naissance, il nous quitte. Il meurt de la maladie des nouveau-nés, c'est-à-dire que le matin au réveil, papa a vu dans le berceau son petit garçon qui n'était plus en vie. Voilà, les parents nous ont rien dit, on est allé à l'école comme si de rien n'était, moi j'ai rien remarqué. Et puis en rentrant le soir, je pense que c'est papa qui a dû nous annoncer la nouvelle. Et je ne sais plus très bien comment il nous l'a annoncé, mais c'est un événement qui m'a marqué. Moi j'ai des petits souvenirs, hein, mais des souvenirs de ce tout petit cercueil, à un moment donné, ce souvenir de cette grande procession de voitures les unes derrière les autres, derrière le corbillard pour nous rendre à la célébration. Donc c'est des souvenirs très marquants.
Vous dites à ce moment-là une conviction, il y a une vie après la mort. Vous n'avez que 6 ans.
J'ai que 6 ans. Je le dois à l'éducation de mes parents. Je le dois à la musique déjà. Alors à l'époque, c'était pas Glorious, c'était Akepsimas et Manic. Voilà, et ils avaient une très belle chanson, elle va se faner la fleur du pommier, qui est en fait une reprise de cette histoire de Jésus dans l'évangile, qui nous dit que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il prend beaucoup de fruits. C'est la même chose avec le pommier, comme c'est beau la vallée du Rhône au printemps, avec tous les arbres en fleurs, c'est magnifique, c'est splendide, c'est merveilleux, il y a des parfums exceptionnels, il y a des couleurs splendides, on aurait presque envie que ça s'arrête là. Mais comme c'est bon, les cerises, les pêches, les abricots, les pommes, les poires, etc. Mais pour manger ces fruits, il faut que la fleur, elle meure à elle-même. Et c'était le sens de cette chanson. Et c'est comme ça que j'ai compris, dès l'âge de 6 ans, et que cette foi, elle m'a jamais quitté, que la mort n'était pas la fin de tout, mais que c'était le début d'une nouvelle vie, et que pour accepter cette nouvelle vie, il fallait que notre ancienne vie disparaisse. On a fêté il y a pas longtemps les 40 ans du décès de mon petit frère. Ça reste un événement marquant dans notre vie familiale. Ça a été aussi très fort pour moi. Ça n'est pas d'histoire ancienne, c'est encore du présent. Il fait toujours partie de la famille. Et quand je me présente, je dis que je ne suis pas l'aîné d'une famille de 5, je suis l'aîné d'une famille de 6.
C'est ce que vous avez dit d'ailleurs dans l'introduction de cette émission.
Exactement.
Est-ce que vous conseilleriez à des personnes qui vivent un deuil comme ça, de justement ne pas oublier?
Le premier conseil que je donnerais à des familles qui vivent un deuil comme cela, c'est d'abord de ne surtout pas mettre de côté les enfants et de les intégrer pleinement. Et à la manière de dire au revoir ou adieu à la personne qui est décédée, à la manière peut-être de célébrer d'une manière ou d'une autre les funérailles, que ce soit par une célébration à l'église ou par autre chose, et puis d'en parler et en tous les cas de marquer cet événement de manière assez claire et précise régulièrement. C'est quelque chose de marquant.
Alors ensuite, du CM2 jusqu'à la licence, vous déménagez, vous quittez la grande maison, les sous-bois, les grands jardins et vous arrivez dans un petit appartement à Paris.
Oui, et là, c'est le choc des cultures. Et en fait, quand on arrive à Paris, la première chose qui nous surprend, ce sont les personnes qui font la manche dans la rue. On n'en avait jamais vu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec mon frère quand on revient à l'appartement? On joue au clochard qui mendie dans la rue. Donc, il y a l'un de nous deux qui se déguise, qui met une pancarte J'ai faim, qui met une espèce de petite assiette devant lui, et puis l'autre qui, avec des pièces de jeux de société, Monopoly ou autre, passe, s'arrête et met quelques pièces dans l'assiette. Donc pour nous, ça a été vraiment un choc assez brutal et assez violent de découvrir cette pauvreté qu'on ne voyait absolument pas lorsqu'on était tranquillement dans notre maison avec notre jardin. Le deuxième choc, ça a été la disparition des grands espaces de liberté qu'on avait. Et je pense que pour les parents, ça a été un peu sportif. Et puis le troisième choc, c'est un choc scolaire, parce que j'étais dans une école où tout allait bien, et j'arrive dans une école où je me retrouve dernier de la classe, avec des résultats catastrophiques, et avec des cours particuliers à prendre en CM2 pour rattraper le niveau. Mon premier cours particulier a eu lieu le jour de mon anniversaire. Donc c'était un cadeau assez étonnant à recevoir.
Vous l'avez vécu comme un cadeau, ou aujourd'hui vous vous dites que c'était un cadeau?
Je pense qu'aujourd'hui c'était un cadeau. Je suis très heureux de l'éducation que j'ai reçue, de la formation que j'ai reçue. Peut-être avec un bémol qui est l'attachement aux résultats scolaires et à la performance scolaire. Si j'avais un regret dans l'éducation que j'ai reçue, c'est peut-être se dire que comment est-ce que des parents peuvent être aussi attentifs au développement de toute la personne de leur enfant? Et de se dire, bah, si il brille pas par ses résultats scolaires, est-ce que et s'il a une fibre artistique, est-ce qu'il faudrait pas la développer un peu plus, en sachant que le souci des parents, c'est que leurs enfants ensuite puissent s'assumer comme adultes et que voilà, c'est des choix qui sont pas si simples.
Alors vous, en troisième, et c'est la période où justement on commence à parler d'orientation, et en général, on ne sait absolument pas ce qu'on veut faire, parce qu'en troisième, on connaît, si on connaît 10 métiers, c'est le bout du monde. Et vous, vous le saviez, vous étiez en troisième, donc on a à peu près 14 ans, et vous avez dit en troisième, moi, ma conviction, c'est je serai soit prof d'histoire géo, soit prêtre.
Oui, c'est une conviction très forte. D'abord, j'ai été profondément marqué par des profs, par leur manière d'enseigner, par le souci qu'ils avaient de leurs élèves, le souci du bien de chaque élève et pas simplement de sa réussite scolaire. Et puis, en même temps, il y avait cette question de la vocation sacerdotale, que je remonte, en tout cas les premiers appels à ma première communion. Là aussi, j'avais 7-8 ans. Ça a été un moment très fort dans ma vie. Et en fait, cette question de devenir prêtre, je me la suis toujours posée, elle a toujours été présente, elle n'a jamais disparu dans ma vie. Et il y a des moments où elle était plus ou moins forte et plus ou moins présente qu'à d'autres. Mais en tous les cas, habité par cette conviction en troisième que Dieu avait un projet pour moi et que ce serait soit l'histoire géo, soit le sacerdoce. Si je suis là sur cette terre, c'est pas par hasard. Si je suis né en 1974 dans le monde qui est celui de cette époque-là, si aujourd'hui je suis prêtre en 2022 dans le monde qui est celui dans lequel nous vivons, avec tout ce que nous traversons, je ne crois pas que ce soit le fruit du hasard. C'est parce que j'ai été voulu pour vivre à cette période, à ce moment précis de l'histoire, pour m'épanouir, me réaliser, y apporter quelque chose. Et moi, j'ai eu cette chance de découvrir cela en troisième.
C'est une vraie chance,
C'est
parce
une
que...
vraie chance. Voilà, j'étais aussi un peu regardé bizarrement et curieusement par les autres élèves de ma classe, et ça a été une période pas simple et pas facile pour moi. J'étais hyper timide, très replié sur moi-même, pas très ouvert, comme beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui, auxquels je m'identifie un peu quelquefois, mais j'espère que je m'en suis pas trop mal sorti par la suite.
Alors, on va reparler de la suite justement où vous allez découvrir les chanoines réguliers de Saint-Victor. Il faudra que vous nous expliquiez aussi un petit peu ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette émission et qui ne connaissent pas du tout toutes ces singularités de l'Église catholique. Vous êtes venu avec deux chants. Le premier, c'est Bénédiction France.
Il a été composé il y a 3 ans maintenant, je crois. Il a été interprété par plus d'une centaine d'églises de toute la France, Et je prends le mot église à dessein parce que il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait même toutes les dénominations des protestants, il y avait aussi des orthodoxes. Et l'idée de ce chant, c'était de se dire, pendant le tout premier confinement, est-ce que tous les chrétiens de France ne pourraient pas s'unir pour donner un message d'espérance à nos contemporains, à nos citoyens qui vivent une période extrêmement difficile. Et ce chant a été mis sur les réseaux sociaux, je pense à peu près à la Pentecôte il y a 2 ans, si je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est à peu près cela. Et c'est un chant qui a plus d'un million de vues sur YouTube. Et c'est un chant extrêmement touchant. Je crois que c'est la première fois pour notre pays que toutes les confessions chrétiennes se retrouvent dans un tel projet. Et déjà, rien que pour ça, c'est fort. Ensuite, c'est un chant qui reprend un passage de la Bible où en fait Dieu dit à Moïse, donc un des patriarches de la Bible, un des personnes les plus importantes de la Bible, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il vienne sur toi, qu'il te protège, qu'il t'accompagne, qu'il veille sur tes enfants, sur toutes ces générations. Moi, comme curé de paroisse, j'ai eu la chance d'avoir 2 paroissiens qui se sont dit « mais nous, on fait partie de l'aventure voilà. ». Et moi, j'ai beaucoup développé ça dans la paroisse dont je suis le curé, dans mon ministère, et je trouve que c'est très beau, très prenant et très parlant.
Oui, vous n'avez pas, vous, 2 ou 3 chanteurs, comme vous disiez, mais vous avez tout un groupe, vous.
Exactement, ah oui. Voilà. Et puis, peut-être aussi, la dernière chose, c'est que l'aventure La Bénédiction France ne s'est pas arrêtée à ce simple chant. Des chants pour prier, pour bénir, avec cette volonté de s'adresser à tous, avec une musique qui parle à chacun aujourd'hui.
Eh bien, on l'écoute et on se retrouve juste après.
Simple, c'est dans le ciel qu'il puisse son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction.
Si sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs enfants, que sa faveur.
Chemin de foi, RCF.
Toujours dans notre émission sur RCF en compagnie du père Ludovic Basset-Charcot. Donc vous êtes chanoine régulier Saint-Victor de l'abbaye de Champagne en Ardèche. Vous nous avez expliqué un petit peu pourquoi vous avez choisi ce chant qui est né finalement pendant cette période de Covid. Et puis vous avez aussi expliqué l'importance de la musique dans les célébrations, dans votre paroisse. Je crois que vous avez eu un choc quand vous avez vu la paroisse Sainte-Blandine à Lyon aussi. Et que un petit à petit vous vous êtes dit « mais pourquoi pas chez moi ?» Et c'est ce qui s'est passé.
C'est exactement ce qui s'est passé. Alors ça aurait pu être dans un autre lieu. Comme je suis curieux et comme je cherche des manières d'annoncer la foi aujourd'hui, de parler de Dieu aujourd'hui, j'essaye de voir ce qui se vit, ce qui se passe ailleurs. On est allé à Lyon, franchi la porte d'une église qui s'appelle l'église Sainte-Blandine de Lyon, touché par la qualité de l'accueil de ces gens qui nous accueillaient à bras ouverts quand on rentrait dans cette église, touché par la qualité de la musique qui était jouée dans cette église, et d'une musique moderne, contemporaine, inspirée, priante, mais qui parle vraiment aussi au cœur, touché aussi par la qualité de la prédication ou de l'homélie du prêtre qui essayait de s'adresser de manière concrète aux personnes qu'il avait en face de lui. Vraiment, je suis ressorti de ce moment-là avec cette idée, mais dans le fond, on peut peut-être s'inspirer de ce qui est vécu là pour l'adapter là où nous sommes, dans le contexte dans lequel nous sommes, parce que je suis habité par cette conviction que c'est une manière possible de parler de Dieu aujourd'hui qui peut toucher les personnes.
On est parti jusqu'à la musique à Sainte-Blandine, à Lyon et donc à l'heure actuelle, mais on s'était quitté à peu près au moment du lycée. Vous avez fait des études d'histoire géo, vous disiez c'est à cette époque-là que vous découvrez les chanoines réguliers de Saint-Victor, l'abbaye de Champagne. Alors qu'est-ce que c'est ?
Moi-même j'ai découvert qu'il y avait plusieurs prêtres qui étaient à Paris, qui était dans la paroisse où moi-même je pratiquais, qui faisait partie de cette communauté. C'est comme cela que je suis allé en Charente, dans une des maisons de la communauté, où il y a quelques confrères qui vivent ensemble et qui ont un ministère là-bas. Et là aussi, une espèce d'évidence, c'est ce qui me correspond. Un peu comme quand on tombe amoureux de son conjoint, de son épouse ou de son époux, et en fait, où il n'y a pas tellement d'explications rationnelles possibles, quoi.
Il y a une sorte de coup de foudre.
Oui, il y a, après le coup de foudre, on l'approfondit. Oui. Mais en tous les cas, il y a une rencontre, il y a un événement marquant. C'est là où la vie, quelquefois, est surprenante. Où on a le sentiment que, quelquefois, c'est très long, il ne se passe rien. C'est le calme plat absolu. Moi, j'avais ce désir d'être prêt depuis très très longtemps, depuis l'âge de 7 ans. À 24 ans, toujours rien se profile à l'horizon. Et je marquais un peu mon impatience. Et puis, en l'espace de quelques mois, je rencontre une communauté religieuse et je me dis c'est là. Et autant dans ma tête je pensais devenir prêtre diocésain du diocèse de Paris, autant devenir membre d'une communauté religieuse des chanoines réguliers de Saint-Victor, dont la maison mère est en Ardèche. J'avais jamais entendu parler de l'Ardèche avant l'âge de mes 23-24 ans. Ça a été complètement inattendu. Et d'un seul coup, tout s'est accéléré en 6 mois. Le temps s'est accéléré d'une manière assez vertigineuse. Je découvre cette communauté, je vais dans l'une de leurs maisons. Et donc je suis allé à l'abbaye, j'ai découvert. Je suis retourné pendant l'été pour bosser ma session de rattrapage pour vraiment obtenir mes diplômes avant d'entrer. Donc
oui, vous avez révisé à l'abbaye.
Voilà, j'ai révisé à l'abbaye. D'accord. Et puis après l'obtention de ma licence, je suis rentré à l'abbaye de Champagne.
Un chanoine, qu'est-ce que c'est ?
Un chanoine, c'est quelqu'un qui vit selon une règle. Chanoine, ça vient du latin canon, qui n'est pas d'abord la marque d'un appareil photo ou de caméscope ou de je ne sais quoi, mais canon, ça veut dire règle. Et donc un chanoine, c'est quelqu'un qui vit selon une règle de vie et qui vit selon la règle de vie écrite par saint Augustin au 4e siècle de notre ère. Et saint Augustin s'inspire de la manière dont les premiers chrétiens vivent ensemble juste après la mort de Jésus. C'est raconté dans un des livres de la Bible qui s'appelle les Actes des Apôtres, au chapitre 2, où l'auteur Luc dit ils vivaient ensemble, un seul cœur, une seule âme tendue vers Dieu.
Avec des missions.
Oui.
Et vous êtes envoyé un certain nombre de mois ou d'années dans des endroits.
Exactement.
Et c'est votre cas actuellement pour cette paroisse à Saint-Péray.
Voilà, je suis arrivé à Saint-Péray il y a 10 ans. Avant, j'étais en Dordogne, à côté de Périgueux, dans une autre maison que nous avons. C'est le père abbé qui nous envoie dans telle ou telle maison. Et c'est ensuite l'évêque du lieu dans lequel nous sommes qui nous confie les missions qu'il veut bien nous confier.
Vous êtes venu avec une seconde pause musicale. Et on va continuer cette discussion juste après. Plus atypique cette fois-ci, le blues du businessman.
D'abord, c'est Starmania. Le premier opéra rock français, on dirait comédie musicale aujourd'hui, oui. En 1979. Ensuite, c'est Balavoine, qui est un chanteur hors norme, d'abord avec sa tessiture vocale, révolté. Voilà, plus d'une fois, il a pris la parole aussi pour des causes un peu désespérées. Et puis, c'est une fin tragique, mort sur le Dakar dans un accident d'hélicoptère. Et puis, cette chanson, elle est aussi dans la bonne originale d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté, qui est l'histoire d'un homme qui est élevé dans le milieu du cirque, qui a un grave accident de trapèze, il ne peut plus faire de cirque. Et donc, il se retrouve responsable de la propreté du cirque. Et puis, de fil en aiguille, il va se retrouver à la tête d'une entreprise multinationale. Il va avoir un succès phénoménal et un jour il va tout plaquer, il va disparaître parce qu'en fait c'est pas la vie qu'il souhaitait mener. Et je trouve que cette musique, elle est magnifique parce qu'elle nous dit ça. Voilà, on peut réussir magnifiquement, professionnellement parlant, mais être complètement dévasté. Parce que en réalité, est-ce que c'est vraiment ça qu'on recherche et qu'on souhaite vivre et qui, en tous les cas, peut répondre à nos aspirations les plus profondes à être heureux.
Si vous n'étiez pas prêtre, vous seriez quoi, prof d'histoire géo ou encore autre chose ?
Je pense que j'aurais poursuivi dans l'enseignement. J'aurais tout fait pour essayer de me retrouver directeur d'un établissement scolaire.
J'aurais voulu être directeur d'un établissement scolaire. C'est pas tout à fait ce que dit cette chanson. Nous écoutons donc le blues du businessman et on se retrouve juste après.
T'aurais voulu être un arrêté.
Chemin de foi, RCF.
Toujours dans notre émission sur RCF en compagnie du père Ludovic Basset-Charcot qui nous a bien expliqué ce qu'était un chanoine régulier qui suit donc un certain nombre de règles. Et donc dans cette dernière partie, on peut continuer un petit peu. On s'est arrêté au moment où vous avez fait le choix de rentrer à l'abbaye de Champagne alors que vous étiez en train d'hésiter à « je vais prendre mes places pour la Coupe du Monde de foot en 98 » dont toute la France se rappelle sûrement. Et puis, vous dites « c'est soit la Coupe du Monde, soit l'abbaye ». Et du coup, vous êtes rentré à l'abbaye.
En fait, on est en 1997. Moi, j'ai tous mes copains qui prennent leur place pour pouvoir aller voir quelques matchs dans différents stades en France. Et ils me disent « et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et moi, je dis « bah non, je prends pas mes places. Pourquoi ?» Pas trop vous le dire, mais en tous les cas, je serais pas dispo.
Vous voulez pas trop dit ça autour de vous.
Pas tout de suite. Il faut vraiment respecter notre liberté. Et je pense que c'est sage, en tous les cas, pendant un certain temps, de le garder pour soi, de le mûrir. Je n'ai pas pris mes places pour la Coupe du Monde de foot en 98 en France et à Paris.
On regarde le foot dans la ville.
Mais exactement. J'ai eu la chance incroyable de suivre à peu près tous les matchs avec l'ensemble des confrères. Derrière notre poste de télé, tous ensemble, et c'était un moment assez incroyable aussi de le vivre de cette manière-là.
Vous êtes devenu aussi carreleur.
Oui, parce que l'abbaye de Champagne a cette particularité que c'est une abbaye contemporaine, c'est-à-dire que nous avons tout construit nous-mêmes. Quelquefois, on a des gens qui viennent qui disent « mais est-ce qu'on pourrait visiter l'abbaye ?» Ben non, ça se visite pas, c'est pas une abbaye du Moyen-Âge qui tombe un peu en ruine, qu'on a restaurée par-ci, par-là. En fait, cette abbaye, elle est née en 1968, et tous les confrères se sont retrouvés en tenue de chantier pour construire les différents bâtiments dans lesquels nous vivons aujourd'hui.
68, tout un symbole aussi.
Exactement. Et donc, en fait, nos journées se répartissaient à peu près de la manière suivante. C'est que le matin, on avait notre formation intellectuelle pour pouvoir devenir prêtre, qui sont des études indispensables. Et puis, l'après-midi, nous revêtions notre tenue de chantier pour soit rénover des bâtiments qui avaient besoin d'être rénovés, soit construire de nouveaux bâtiments. Et moi, je suis arrivé à l'abbaye au moment où il fallait refaire le carrelage d'une salle paroissiale. Et donc voilà, donc j'ai appris à être carreleur en entrant à l'abbaye. Et c'est comme cela que j'ai appris aussi le travail manuel. Et ça, c'est la vie religieuse. Quand on rentre à l'abbaye de Champagne, on rentre d'abord pour être religieux. Ensuite, le fait d'être prêtre, ça, c'est le père abbé lui-même qui discerne. Alors, il n'est pas tout seul, il est conseillé par d'autres personnes. Il nous voit aussi vivre à l'abbaye, il nous voit aussi nous développer dans tous les aspects de notre formation, humaine, spirituelle, intellectuelle, voilà. Et c'est le père abbé lui-même qui nous dit, bah, écoutez, moi, je vous appelle aussi à devenir prêtre. Et à ce moment-là, on poursuit notre formation pour devenir prêtre. Mais tout chanoine n'est pas prêtre. Il y a des membres de la communauté qui sont frères et qui ont fait leur vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais qui ne sont pas allés jusqu'au sacerdoce.
Ce qui veut dire qu'entre le moment où vous dites je voudrais être prêtre et le moment où vous êtes devenu prêtre, il s'est passé 8 ans.
Exactement.
Est-ce que c'est trop long ou est-ce que c'est bien d'après vous?
Je pense que c'est bien. D'abord, là encore, c'est un choix de vie radical. Et donc, il faut prendre le temps de discerner si c'est bien ce qui nous correspond au plus profond de nous-mêmes et si c'est bien aussi le désir de Dieu pour nous. Et donc, ce temps est nécessaire. Il est d'autant plus nécessaire que pour être prêtre, il faut avoir un équilibre solide et d'abord un équilibre humain solide. Il faut être bien dans sa tête.
Père Ludovic Bassé-Charcot, pour terminer cette émission, quel serait votre message, vous qui justement vivez au milieu des gens, dans une époque où, post-Covid, les gens sont changés par les deux années qu'on vient de passer? On sent bien que, voilà, on est dans des périodes électorales, il y a des agitations, il y a des prêtres ou des pasteurs qui se font un peu secouer à droite à gauche. C'est compliqué de vivre cette époque-là. Alors on nous dira peut-être que toutes les époques sont compliquées, mais en tout cas, nous, on vit dans celle-là. Pour tous ceux qui, voilà, qui comme vous, parfois le matin, en regardant leur agenda, se disent « Oh là là, j'y arriverai jamais, j'ai ma semaine qui est déjà foutue alors que je suis même pas réveillé », qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on garde la pêche?
C'est une bonne question. Je pense que peut-être la première réponse que je pourrais donner, c'est « Mais quels sont tes désirs les plus profonds ? Est-ce que ça t'est arrivé dans ta journée ?» d'avoir un vrai temps de silence où tous tes écrans sont éteints, où tout ce qui fait du bruit, radio ou autre, téléphone ou autre, est éteint, où tu te retrouves avec toi-même et où tu te dis, mais dans le fond, qu'est-ce que je désire au plus profond de moi? Il y a un passage dans la vie de Jésus que j'aime beaucoup, qui est ce moment où il est dans la barque avec ses disciples sur la mer, et la mer s'agite dans tous les sens, c'est la tempête, et les disciples se disent « on va y rester quoi ?» Et Jésus dort. Et les disciples disent à Jésus « écoute, fais quelque chose », et Jésus calme la tempête. Et en fait, Dieu il peut tout, et Dieu il peut faire deux choses. Il peut calmer la tempête de ma vie, ça il peut le faire. Mais il peut aussi, et je crois que c'est surtout ça qu'il fait, il peut me calmer, moi, dans la tempête. Ma vie, elle est ce qu'elle est, avec ses complexités, avec ses difficultés, avec ses incertitudes, avec ses peurs, avec ses tensions. Mais si je le demande, et si je me mets en état de réception, je crois vraiment que Dieu peut me calmer dans la tempête, que Dieu peut me donner la paix. Et si j'avais un seul conseil à donner à une personne qui nous écoute et qui se dit « mais moi je suis prêt à faire un pas de plus », je dirais « va suivre un parcours alpha qui est un lieu où on va te donner du temps pour te poser les grandes questions que tu t'es jamais posées dans ta vie. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je sur terre? Et Dieu dans tout ça, est-ce qu'il existe? Et qui est Jésus? Et sa mort, qu'est-ce que ça veut dire ?» Enfin, toutes ces questions qu'on a au plus profond de nous-mêmes, en fait, qu'on ne prend jamais le temps de se poser et essayer de trouver un sens à notre vie.
Merci beaucoup pour ces mots de la fin, Père Ludovic Bassé-Charcot, et d'avoir été notre invité sur RCF.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.